France Inter. L'heure philo. Bienvenue dans l'heure philo, Lilian Allôme à la réalisation, Chantal Le Montagné à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Gaspard Guy Bourget à la console.
L'heure philo. Patricia Martin sur France Inter.
Les enfants ont des questions massives, saisissantes sur l'existence humaine. Pourquoi les couleurs nous emportent ? L'infini a-t-il du temps ? Est-ce qu'on existe parce qu'on a une mission ? Avons-nous tous la même liberté ? Si on ne savait pas qu'on allait mourir, est-ce qu'on vivrait mieux ? Le corps est le maître de l'esprit ou le contraire ? Et enfin, ma préférée, les animaux de compagnie ont-ils aussi des animaux de compagnie ? Ces exemples, ces questions montrent la capacité des enfants à exprimer des questions essentielles qui montrent toute l'étrangeté de la vie humaine. Ils montrent aussi que les enfants ont le désir de chercher du sens. Accueillons donc toutes ces questions pour les examiner avec eux tranquillement.
Les enfants ont des questions massives, nous dit la philosophe Johanna Hocken, la jeune Alice, qui s'est glissée parmi nous aussi. C'est une Alice au pays des idées, c'est le titre du dernier roman de Roger Paul Droit, publié chez Albin Michel. Une Alice qui s'inquiète, qui s'interroge et se demande où trouver le chemin et comment. Ces questions, on le verra, sont celles de tous les sages et les philosophes. Aux côtés de Roger Paul Droit, un autre philosophe, Paul Audy, dont les deux livres que j'ai devant moi nous aideront à éclairer notre chemin, réclamer justice, qui sort tout juste en poche chez Verdier, et tenir tête, prix Fémina du meilleur essai, c'était en 2024. Roger Paul Droit, je reviens sur le titre de votre roman, Alice au pays des idées. Alors évidemment, c'est un clin d'œil à Lewis Carroll, mais ce qu'il faut retenir, c'est le mot « idée », il est central. Pardonnez-moi cette question, mais qu'est-ce que c'est qu'une idée ?
Eh bien, une idée, c'est une représentation que nous nous faisons de la réalité. En grec, le mot vient de eidos, qui est une forme, et c'est finalement toujours quelque chose de général qu'on ne rencontre pas dans la réalité, l'idée d'égalité ou l'idée de justice, ou vous ne l'avez que dans votre tête. Mais ces représentations que nous avons, eh bien, elles déterminent absolument comme des filtres, comme des lunettes, comme des verres teintés, si j'ose dire, toute la manière que nous avons de voir les choses, le réel, nous-mêmes, les autres, nos décisions. Et d'une certaine manière, les idées, c'est ce qui nous fait vivre pour le meilleur comme pour le pire. Ça construit des liens. Ça détermine nos manières de voir, mais ça peut aussi effectivement détruire, massacrer, tuer. Mais de manière encore plus simple, je dirais que la philosophie, elle consiste à regarder ce que sont les idées. Sinon, tout le monde a des idées. Tout le monde sait à peu près les défendre contre des objections.
Tout le monde a des idées. Est-ce qu'on ne confond pas aussi quelquefois une idée et une opinion ?
Ah ben bien sûr. Alors je dirais, tout le monde a des choses en tête. Voilà. Des choses en tête qui sont faites de tout un mélange de préjugés, d'opinions, de choses qu'on a reçues, comme disait Descartes, dans sa créance, c'est-à-dire dans sa croyance, qui se sont sédimentées, accumulées dans votre esprit au fil de l'éducation, en fonction du milieu où vous êtes né, en fonction de vos parcours, de vos lectures, de vos conversations. Et tout cela qui s'accumule, nous le croyons vrai la plupart du temps. Personne ne dit « je crois ça, mais c'est faux ». Vous voyez, ce qu'on croit, par définition, on le croit vrai. Mais on ne l'a pas regardé. Et le geste, depuis Socrate repris par Descartes, enfin le geste, me semble-t-il, de base de la philosophie, là où ça commence, là où ça se met en place, c'est de se dire, toutes ces idées que j'ai en tête, eh bien je vais les regarder. Je vais tenter même de les mettre à l'épreuve, de les examiner. Descartes a une très jolie formule où il compare ça au tri qu'on ferait d'un panier de pommes. Mmh. Et où il dit, si on veut savoir celles qui sont abîmées ou qui commencent à se taveler, eh bien, il faut tout renverser, les prendre et faire le tri.
Les pommes tavelées, en l'occurrence, sont les illusions, sont les croyances.
Voilà, ou les idées nocives, ou les idées mal construites, ou ce qu'on croit être une idée qui n'est qu'un faux semblant. Socrate faisait ça. Examiner les idées de ses interlocuteurs. Je prends un exemple extrêmement simple. Le vieux Laquès, un général, il lui demande ce que le courage. Et ce vieux général qui a quand même fait quelques campagnes militaires, dit, c'est simple, c'est de pas avoir peur. Et quand Socrate lui demande, mais si quand on a peur et qu'on y va quand même, c'est pas du courage, le vieux général est mal à l'aise, et il est évidemment au bout d'un moment très en colère. Voilà, c'est ça, c'est que on croit avoir des idées, et assez vite, elles vont se révéler en regardant de plus près, en les examinant vraiment, mal construite, ne résistant pas aux objections, étant peut-être floue alors qu'on les croyait précises. Et ce que découvre Alice, mon héroïne, dans ce pays des idées où j'ai décidé souverainement que coexistent tous les sages, tous les philosophes,
mais c'est ça qui est chouette,
de tous
d'ailleurs.
Les temps, toutes les civilisations, toutes les époques, elle découvre que, les idées c'est important, c'est essentiel. Deux, il faut les regarder pour savoir comment elles tiennent, et donc, au bout d'un moment, il faut aussi les soumettre à des examens. Je pense que c'est vraiment le béaba de la philosophie, le geste premier, c'est ça. C'est savoir ce qu'est une idée et ce qui n'en est pas une, et puis surtout faire le tri, parce que leur importance étant cruciale, si nous regardons nos idées, que nous les réorganisons, qu'éventuellement nous les modifions, alors c'est aussi notre vie. C'est aussi notre rapport aux autres, c'est aussi notre rapport à la réalité que nous faisons bouger.
On va en parler du rapport aux autres. Paul Audy, l'idée n'exclut pas l'émotion, elle n'exclut pas le sentiment. Je pense à l'amitié. Alors quand on parle de l'amitié, on peut citer Aristote, sans amis, personne ne choisirait de vivre. On peut aussi, évidemment, c'est peut-être plus tarte à la crème, mais penser à Montaigne et la Boétie. Mais on peut aussi penser à Roger Paul-Droit et Paul Audy. Parce que, en fait, vous êtes amis dans la vie.
C'est
j'ai
vrai.
Le droit de le dire ?
Oui, bien sûr.
Ou j'ai gaffé ?
Bien sûr. Bien sûr que nous sommes amis dans la vie. Et justement, ce qui est aussi intéressant, c'est de quoi est faite l'amitié de deux philosophes, de deux praticiens de la philosophie. Est-ce qu'elle fait intervenir justement le commerce des idées à l'intérieur de l'amitié, ou bien l'amitié n'est pas aussi un pas de côté par rapport à nos occupations de tous les jours? En tout cas, à la question qu'est-ce que l'amitié, la philosophie a toujours eu un mal fou à répondre. Et puisque vous citiez Aristote a prononcé cette phrase totalement énigmatique qui a fait couler énormément d'encre, c'est « Ah, mes amis, il n'y a pas d'amis ». C'est ce qu'a dit Aristote. Et depuis qu'il l'a dit, bon nombre de penseurs se sont emparés de cette phrase pour essayer de la comprendre. Elle pose la question de l'énigme de l'amitié. À quoi elle tient? Est-ce qu'elle peut résister à tout? Et parfois, elle ne résiste pas au choc des idées, justement. Il y a des amitiés qui se défont. Parce que quand il s'agit de dire comment telle ou telle idée nous apparaît, eh bien on se heurte en fait à l'intolérance de l'autre, puisque l'autre aussi a des certitudes.
Mais donc on peut en déduire que vous deux, vous êtes grosso modo d'accord sur beaucoup de sujets.
Alors, il est très important que des amis soient au minimum sur une longueur d'onde similaire, si vous voulez. Ce n'est pas possible de croiser le fer intellectuellement avec un ami systématiquement à chaque fois qu'on se voit. Je crois que l'amitié en prend un coup. Ça c'est certain. En tout cas, moi, j'ai fait l'expérience à des moments importants où je sentais que le monde exigeait de nous une réflexion serrée, une réflexion dure. Je me suis aperçu que je pouvais perdre des amis et je pouvais en gagner d'autres.
Depuis combien de temps êtes-vous amis ?
30 ans, je
dirais. Oui, 30 ans, oui, une bonne trentaine d'années.
Et
oui.
Les liens n'ont fait que se resserrer ?
Je crois.
Oui,
je crois.
Oui, oui, absolument. Oui. Et la question que vous posiez, elle est très difficile. Moi, je suis bien en peine de dire si je suis ami avec Paul en raison de ses idées ou en raison de sa personne. C'est une combinaison des deux. Il y a des tas de choses, finalement, sur lesquelles, je crois, philosophiquement, nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Mais c'est des choses de surface. Il y a des questions qui l'intéressent, qui ne m'intéressent pas, et réciproquement. Il y a des auteurs avec qui il est en affinité, et moi non, et réciproquement aussi. Mais je pense qu'il y a des choix fondamentaux de rapport à la pensée qui nous rapprochent et que c'est en lien d'une manière ou d'une autre avec ce que nous sommes chacun humainement ou personnellement. Je n'arrive pas, pour ma part, à distinguer de façon délimitée chez un philosophe ou même chez n'importe qui ce qu'il pense et ce qu'il est. Enfin, il y a bien évidemment des gens qui pensent des choses abominables alors que ce sont pas forcément de mauvaises personnes. Enfin bon, il y a toutes ces nuances là, j'entends bien, mais d'une certaine manière, l'idée que l'on aurait une vie intellectuelle ou mentale ou affective complètement sans rapport aucun avec ce que l'on est humainement dans son tempérament, son souffle, sa patte humaine, son identité ou sa personnalité, j'ai du mal à le croire.
André Comte-Sponville, c'était à la Grande Librairie.
Moi, quand j'avais 18-20 ans, j'étais bien plus fasciné par des sagesses beaucoup plus ambitieuses. Épicure, Spinoza, La fin des lettres à Ménécée. Épicure écrit, médite mes leçons jour et nuit, et tu ne seras jamais troublé, mais tu vivras comme un dieu parmi les hommes, car il ne ressemble en rien à un être mortel, celui qui vit parmi des biens immortels. À 18-20 ans, moi, ça me bouleversait. Sincèrement, si maintenant je vous disais, je vis comme un dieu parmi les hommes. Oui. Autrement dit, la sagesse épicure, l'ataraxie en grec, l'absence de trouble, la sérénité totale. C'est un très beau rêve quand on a 18-20 ans. Mais ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Mais parce que Montaigne a tout dit en une phrase. C'est chose tendre que la vie et aisée à troubler. Ataraxie, c'est l'absence de trouble. Épicure, sagesse totale, immuable, définitive. Sauf que Montaigne, ces choses tendres que la vie est aisée à troubler. Il m'a fallu 20 ou 30 ans pour faire mon deuil d'Épicure grâce à Montaigne et donc pour aimer la vie plus que la sagesse. Et je veux dire, en vérité, la sagesse n'a aucune importance. Ce qui compte, bien sûr, c'est la vie. Mais c'est une forme de sagesse que de comprendre ça.
On évolue forcément et ce qui compte, c'est la vie. Changer ses idées, ça peut être équivalent au fait de changer sa vie.
C'est très vrai. Je pense que le processus de maturation qui en fait court tout au long d'une existence passe par cette remise en cause des pensées et des croyances, des certitudes en tout cas. Et plus on avance dans la vie, et plus on s'aperçoit de la richesse de la mise en doute. La mise en doute, c'est quelque chose qui effectivement fait trembler le sol sous ses pieds, mais c'est pour la bonne cause.
C'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou.
Oui, c'est la certitude qui rend fou, disait Nietzsche. Oui. Ouais. Le doute est véritablement la manière dont on s'empare des idées et qu'on les fait en quelque sorte grandir. grandir elles-mêmes et puis grandir à l'intérieur de soi. C'est-à-dire elles peuvent prendre beaucoup plus d'importance à partir du moment où elles sont passées par le crible de la mise en question et se défaire en fait de la certitude pour les amener à pouvoir représenter une vérité pour soi.
Roger Paul-Droit.
Cette phrase de Nietzsche, elle est à la fois dans le livre de Paul sur la justice.
Et elle est aussi chez vous.
Et elle est aussi dans le mien. Elle nous est commune, mais je voudrais en deux phrases ou en deux minutes la commenter un petit peu parce que elle est bizarre cette phrase. C'est pas la certitude, c'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. D'une certaine manière, il y a des tas de certitudes qui ne rendent absolument pas fou. Je suis certain d'avoir fait ça quelque chose, d'avoir fait quelque chose tout à l'heure et j'ai pas de doute là-dessus, ou que 2 et 2 font 4, etc. Ça ne rend pas fou. Quelle est la forme de certitude qui rend fou? C'est celle des vérités qui forcément, comme toutes les vérités humaines, doivent être limitées ou approximatives ou jugées comme telles, que l'on transforme en vérité absolue. La certitude qui rend fou, c'est celle des nazis croyant que la race aryenne doit dominer le monde. Ouais. C'est celle des communistes croyant que il faut éliminer les koulaks, et faire des camps de la mort. C'est celle de Daesh qui pense que il faut dresser le califat mondial. L'idée, si vous voulez, c'est que il s'agit de vérités qui, parce qu'elles sont jugées parfaites, absolues et dominatrices, permettent de tuer, de torturer, de déshumaniser ceux que l'on veut éliminer. Et c'est ça, c'est ces certitudes-là qui rendent fou, c'est-à-dire c'est celles, évidemment, des fanatismes et des idéologies.
Paul Audy.
Dans le livre de Roger Paul, il s'agit du pays des idées. Alors, pour revenir au mot « idée », il y a un mot qui a exactement le même radical, qui est « idole ». Et lorsque l'idée devient une idole, lorsqu'on commence à idolâtrer une idée, à ce moment-là, on tombe dans cette certitude qui est de l'ordre de la folie. Il faut se garder d'idolâtrer les idées, il faut en quelque sorte les prendre et les reprendre sur le tamis de la critique pour essayer à chaque fois de ne pas être dupe de ce à quoi on adhère. Alors une idée, c'est extrêmement séduisant lorsqu'elle revêt l'habit de l'absolu, de la totalité. À ce moment-là, on se sent en quelque sorte consolidé. On a en face de soi une idée qui couvre tout, qui recouvre tout, et qui explique en même temps tout. Et on peut être dupe de cette totalité. Il n'y a pas de vérité qui puisse se mesurer, si vous voulez, à l'aune de la totalité. Il n'y a que des vérités qui, en quelque sorte, s'additionnent ou se contestent. Et c'est ainsi que l'on s'empare d'une idée.
Vous écoutez L'Heure Philo. Roger Paul-Droit et Paul Audy sont nos invités. Sushi Larmen sur France Inter. Maya, ma toile de création. Maya, ma musique d'exaltation. Mais elle chante ça en anglais. Roger Paul Droit, pour en revenir d'un mot à ce que Paul Audy disait il y a quelques minutes dans votre roman Alice au pays des idées, la fée objection veille, c'est-à-dire que il est impossible d'idolâtrer des idées, en fait.
Voilà. Son rôle, c'est finalement d'empêcher, comme le disait Paul à l'instant, que une idée devienne une idole. Autrement dit, qu'elle occupe toute la place, qu'elle devienne d'une certaine manière totalitaire, et que on ne pense plus que d'une seule manière. Et le travail de la fée objection, qui est évidemment le travail aussi de la philosophie, c'est de dire, attends, mais tu affirmes cela, on peut dire le contraire, et voilà pourquoi, et à toi de répondre si cette objection te déplaît, voilà. Et on entre à ce moment-là dans cette tension qui fait la pensée, qui fait le rapport à une altérité qui est toujours, ça peut être l'autre avec lequel on est en train de parler et qui n'est pas d'accord, mais ça peut être aussi soi-même. Lorsque Platon dit que la pensée, c'est le dialogue de l'âme avec elle-même, ce qu'il veut dire, c'est rien d'autre, me semble-t-il, que nous avons aussi un autre dans notre tête, nous sommes nous-mêmes et l'autre, pour nous dire « Ah, tu crois ça, tu penses ça, mais attends, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça fonctionne? À quoi ça peut se confronter comme objection, justement, ou comme argument contraire ?» Voilà. Et non seulement les philosophes avancent grâce à leur désaccord, bien plus, à mon avis, que...
D'ailleurs, à un moment donné, Alice, elle se demande pourquoi tous les philosophes ne sont pas d'accord.
Voilà, et elle découvre, mais elle découvre aussi, à mesure... Alors, elle est d'abord déconcertée. Vous voyez, il y a ce vieux thème aussi.
Elle est même
aussi
chamboulée.
Oui, elle dit qu'elle a l'impression d'avoir la tête comme le tambour de la lessiveuse. voilà, et c'est vrai qu'il y a cette impression aussi que l'on a, quand on découvre la diversité des idées, l'antagonisme des positions, l'incompatibilité parfois même des points de départ des philosophies, on a l'impression d'une sorte de cacophonie, d'autant que, aussi, lorsqu'on lit les philosophes, on est d'accord. On se dit « il a raison », et puis on lit un autre qui dit l'inverse, et on dit « il a raison aussi », bon, on fait quoi avec ça? Et il y a ce mouvement de tension interne, ça n'est pas un défaut, ça n'est pas d'une certaine manière une impasse, c'est au contraire le moteur même, me semble-t-il, de la philosophie en général, mais de la pensée sous toutes ses formes, si il n'y a pas cette scission, cette sorte de séparation, d'opposition à soi-même pour créer et pour avancer, de déséquilibre même, pourquoi pas, eh bien, il n'y a rien. On est dans la routine, la mécanique, la non-pensée.
Le philosophe Henri Corbin, c'est une archivina qui date de 1957.
Il est regrettable que cette catégorie de savants que forment les philosophes orientalistes n'ait été représentée jusqu'ici en Occident qu'à un très petit nombre d'exemplaires. Si pour le jeune étudiant occidental en philosophie, l'idée du XIIIe siècle, par exemple, ou du XVIe ou du XVIIIe siècle, évoque des noms multiples et des écoles prestigieuses, il est à craindre, en revanche, qu'il soit pris le coup, si l'on s'avise de l'interroger, par exemple, sur l'importance du XIIe siècle en Iran pour l'histoire de la philosophie, de la spiritualité. Et pourtant, quelle extrême richesse et quelle diversité nous offre la culture spirituelle iranienne à la veille de la tempête mongole. À l'extrême-orient du monde iranien, dans le Khwarezm, le soufisme, sous l'impulsion du grand maître Najmuddin Kubra, prend une orientation toute nouvelle, approfondissant une mystique spéculative qui le diversifie radicalement des premiers ascètes de l'islam qui avaient pris le nom de soufi.
Alors Henri Corbin, qui est l'un des rares philosophes à avoir traité l'islam iranien, je pense que ça va vous inspirer, Roger Paul Droit, mais je voudrais juste que Paul Audy puisse nous dire ce qu'il en pense. La philosophie grecque, pour notre monde à nous, notre monde occidental, elle est évidemment prédominante, mais les Grecs n'ont pas été les seuls et de loin à pratiquer la philosophie. Ils n'ont pas le monopole des idées.
Alors, ils n'ont pas le monopole des idées. Ils ont en quelque sorte établi un modèle à partir duquel la philosophie s'est déployée, mais ce n'est pas le seul modèle. Et l'important, si vous voulez, c'est aussi de tenir compte de la langue à l'intérieur de laquelle les idées apparaissent et s'imposent à l'esprit. La langue joue un rôle vraiment essentiel et pour les Grecs, par exemple, le mot clé logos qu'on utilise que quand on parle, par exemple, de la phénoménologie, ou de la philologie, ce mot logos voulait dire à la fois raison, c'est-à-dire une capacité d'entendement, mais aussi la capacité de parler et de faire un discours. Les langues, si vous voulez, ont cette force qu'elles aussi, elles forgent le sens, elles permettent au sens de prendre une certaine tournure. Et à partir de là, n'importe quelle langue étrangère à la langue grecque, a un usage du sens qui rentre dans le cadre de la philosophie. Mmh. C'est pour ça qu'il y a des philosophes indiens, il y a des philosophes japonais, il y a des philosophes arabes, et tout cela, si vous voulez, forme un trésor pour l'esprit humain. Et nous sommes revenus aujourd'hui de la question d'une sorte d'occidentalocentrisme. Ça n'a plus aucun sens, et on découvre. Alors, on découvre pour certains l'extraordinaire richesse de la manière dont d'autres cultures et d'autres langues s'emparent de la question du sens.
Roger Paul Droit, votre Alice, alors là, elle découvre la culture juive, la culture indienne, la culture chinoise, elle découvre le dieu Ganesh, elle découvre Bouddha, mais vous précisez bien comme si Bouddha pouvait se réduire à un mot. Elle va découvrir Confucius, mais là aussi, il se distingue du confucianisme. Enfin, tout ça est extrêmement riche et foisonnant même.
Mais ce que j'ai voulu montrer, et c'est après tout l'aboutissement aussi du combat de toute une vie.
Enfin, oui, c'est ce que j'allais dire, parce que vous avez déjà publié des livres autour de ce sujet-là avec d'autres philosophies.
J'ai publié récemment chez Albin Michel un voyage dans les philosophies du monde qui est ressorti en poche là récemment. Mais surtout, j'ai travaillé au temps où j'étais chercheur au CNRS pendant plus d'une vingtaine d'années sur la découverte par les Européens des doctrines asiatiques, la découverte du bouddhisme, la découverte de l'Inde notamment. Et sans entrer dans le détail de ces travaux, ce que j'ai pu constater, c'est que vous disiez les Grecs n'ont pas le monopole des idées, ils n'ont pas non plus le monopole de la raison ni de la philosophie. Cependant, on l'a dit beaucoup. On a affirmé que seuls les Grecs étaient philosophes. La formule allemande « nur bei den Griechen », rien que chez les Grecs seulement, elle est sous la plume de Hegel, sous celle de Husserl, et elle est encore plus sous la plume de Heidegger, qui dit par exemple, ce qui est monstrueux, mais il n'est pas une monstruosité près, il dit que la philosophie indienne est une expression contradictoire, comme on dit de l'acier en bois, dit-il. Parler de philosophie indienne, c'est parler comme de la scie en bois, parce que si vous posez que seuls les Grecs et la langue grecque est langue de philosophie et de raison, alors évidemment tout autre est incapable de raisonner. Alors non seulement c'est contraire à l'universalité de la rationalité de l'esprit humain, mais ça, il s'en fichait, mais surtout c'est contraire au fait, c'est contraire, c'est simplement un effet d'ignorance crasse, et Henri Corbin, bien que grand heidegérien, a raison
et
de souligner. Non, mais il a raison de souligner, contre Heidegger, qu'il y a évidemment une grande philosophie arabo-musulmane,
oui,
comme il y a une grande et des grandes philosophies indiennes et des systèmes de philosophie indiens, et que l'usage, si vous voulez, là-dessus, ma position, elle est très simple et très claire. Il y a des philosophies proprement dites, c'est-à-dire déductive, argumentée, usant de tous les principes de non-contradiction et de légitimité des conclusions, dans toutes les pensées du monde, en tout cas dans les grandes pensées lettrées, comme celle de l'Inde, celle de la Chine, celle du Tibet, évidemment celle de l'islam. Et donc, ces textes philosophiques, si nous les négligeons, si nous les mettons hors du corpus philosophique, eh bien, il me semble qu'on perd quelque chose, même si, et il faut l'ajouter, même si il s'agit d'usages de la rationalité qui ont peut-être d'autres visées que les nôtres, d'autres horizons. Par exemple, chez les logiciens bouddhistes, je ne vais pas faire long là-dessus, mais l'idée, c'est plutôt de, par des moyens absolument rationnels, de paralyser le jugement et la rationalité plutôt que d'étendre des savoirs et des connaissances. Mais c'est conduit par des règles démonstratives extrêmement fortes et rigoureuses. Et donc, voilà, la philosophie, aussi bien dans son sens intellectuel et théorique que dans son sens éthique, pratique et existentiel, elle est, à mon avis, plurielle et pas du tout réservée aux Grecs, mais à considérer dans l'ensemble des aires culturelles et des langues où elle s'exprime.
Paul Audy, est-ce que vous acceptez quand même de dire un mot, parce que j'y tiens, à ce livre Tenir tête, parce que on voit bien l'idolâtrie, etc., qui peut conduire aussi à une forme de mésentente, peut-être quelquefois même de haine entre les êtres, en tout cas de difficulté à se parler. Et dans ce livre, Tenir tête, c'est tenir tête à la haine et à l'antisémitisme, au fond, qui est une fiction, c'est donc une correspondance entre deux amis, qui pourrait être vous, Roger Paul et Paul, hein, mais qui s'appelle Maurice et Thomas. Thomas, il a 45 ans, il est prof dans le Val-de-Marne, et Maurice, il a 65 ans. Il est né en Syrie, parce que c'est important dans son histoire. Mais c'est avant tout un livre que vous avez voulu d'amitié et de réflexion philosophique, ce dont nous parlons ici même.
Oui, c'est un livre qui met en scène, en tout cas, une amitié. Et le livre lui-même est écrit dans un esprit amical parce que précisément c'est un livre de combat contre la haine, donc l'amitié étant le contraire de la haine, il fallait la mettre en avant, et je l'ai mise en avant de manière figurée, c'est vrai, enfin il y a une part un peu romanesque dans le livre, bien que ce soit un livre de réflexion
et qui se situe à un moment
qui se situe à un moment particulier, c'est au lendemain du 7 octobre, après le massacre qui a eu lieu dans le sud d'Israël, deux Français sont atteints par l'onde de choc de cet événement et essayent de le comprendre. Et alors, ils entrent dans une sorte de pacte amical qui est d'essayer de faire un travail de connaissance qui doit préluder ou présider à l'acte de compréhension. Donc, ils vont chacun essayer de connaître ce qui se passe, d'essayer de même d'avoir une perspective historique, de sortir de la chaleur de l'événement qui est quand même paralysante, et surtout de sortir de leur angoisse. Parce qu'il y en a un qui est juif et qui sent que il n'a plus voix au chapitre, certaines personnes lévitent, ne veulent pas rentrer dans une discussion qui risque de déraper, où en fait on lui demanderait de prendre parti pour un camp ou pour un autre. Et face à cela, il a besoin de se réfugier dans le temps de la compréhension. Et le temps de la compréhension, attention est totalement contraire aujourd'hui au temps que nous pratiquons pour dire ce que nous voulons dire. Ce que nous voulons dire, on le dit sur un réseau social, on le dit en 140 mots ou 240 mots qui font office de mots d'ordre, si vous voulez. On a l'impression d'être à la barre d'un tribunal, de condamner les uns, de faire la louange des autres, et en écrivant une lettre qui peut paraître totalement anachronique aujourd'hui, eh bien, on prend le temps de peser ses mots, de réfléchir et d'accepter. Parce qu'une lettre est une adresse à quelqu'un, mais qui attend en quelque sorte la réponse. Et donc la réponse est déjà, si vous voulez, attendue à l'intérieur de la lettre, de telle manière à ce qu'un dialogue puisse se former et qu'une opinion puisse être corrigée. Et donc, c'est ça que je voulais mettre en place dans le livre, et je m'aperçois à quel point ça appartient de moins en moins à nos habitudes.
Alors, j'imagine, Roger Paul-Droit, que vous avez lu ce Tenir tête, qui a d'ailleurs obtenu le prix féminin, oui, de l'essai. Mais là aussi, votre Alice, elle est confrontée parce que vous en parlez, des sources de l'antisémitisme, de l'antijudaïsme. Vous lui expliquez bien qu'on comprend, enfin vous, évidemment pas. Oui, si, quand même, c'est vous qui l'écrivez. Pourquoi, quand on entend parler du peuple élu, on comprend les choses de travers? Tout ça, ce sont des choses qu'elle apprend.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que je crois que ce qui importe, et c'est probablement ce qu'il y a de commun entre le livre « Tenir tête » de Paul Audy et « Alice au pays des idées », bien que ce soit des livres absolument et radicalement différents, dans leur, pas simplement dans leur thématique, mais dans leur écriture ou dans leur axe. Le point commun, c'est qu'il s'agit finalement d'essayer de regarder ce que l'on a dans la tête. Et c'est ce que font tes deux correspondants, tes deux amis. C'est-à-dire que ils sont dans la sidération de l'événement, oui, ils sont dans la presque tétanisés, effectivement, par ce qu'ils éprouvent et ressentent, et ils décident de le comprendre en découvrant à mesure aussi ce qui les sépare, et peut-être la source de ce qui les sépare. Et ça, c'est très important, parce que au lieu de s'invectiver, commencer à comprendre d'où viennent, et parfois de façon de racines historiques et culturelles très anciennes et très ancrées, comprendre d'où viennent nos désaccords est quelque chose qui me paraît absolument essentiel. Ça va pas les aplanir, mais ça va forcément complètement changer la donne, parce que savoir sur quoi on est en désaccord et pour quelles raisons et d'où viennent ces raisons, c'est un paysage absolument et radicalement différent de celui où on croit qu'on a raison, on s'invective et on entre dans la surenchère de la haine et de l'injure. Voilà, je crois que c'est ça. Et en ce qui concerne Alice, évidemment, elle découvre, qu'est-ce qu'elle découvre comme premier spectacle de la haine? C'est le meurtre d'Hypatie à Alexandrie. Alors évidemment, elle se promène
Hypatie,
dans l'histoire.
Hypatie, parce qu'il n'y a pas des masses de philosophes femmes. Hypatie en est une.
Voilà, Hypatie en est une. C'était une mathématicienne et philosophe, fils elle-même d'un mathématicien grec très connu, et qui, à Alexandrie, joue un rôle absolument décisif. On est vers le IIIe siècle de notre ère, si ma mémoire est bonne, donc une antiquité plutôt déjà tardive. Et c'est la seule que l'on connaisse martyre, non pas chrétienne, mais païenne. Elle a été lapidée dans une église par une troupe de moines fanatiques. Elle a été dépecée à l'intérieur même du cœur de l'église. Enfin, c'est une mort évidemment atroce. Et surtout, quand planquée dans le fond de l'église derrière un pilier, la petite Alice traumatisée assiste à ce meurtre, elle voit quelque chose qu'elle n'avait pas encore soupçonné, mais qui se retrouve évidemment partout dans l'histoire, c'est la jubilation du fanatisme. Vous voyez, c'est la joie de tuer en étant finalement, en croyant que l'on fait bien et que l'on élimine non pas un être humain, mais une sorte de déchet, d'obstacle, une créature de Satan, voilà, pour ces moines chrétiens d'Alexandrie fanatiques, la belle et savante Hypatie, c'était la figure du mal. Et je crois qu'il y a partout, dans ce même, pour tuer avec jubilation, en croyant bien faire, il faut avoir, un, déshumaniser son adversaire. Ça n'est pas un être humain, c'est pas un enfant, c'est un déchet. Et il faut aussi avoir en tête une sorte de vérité suprême qui vous y autorise, et, j'allais dire sanctifie, ce serait exagéré, mais en tout cas, qui rend juste l'acte le plus horrible. Voilà.
Vous êtes bien sur France Inter, c'est l'heure philo que vous écoutez. Mathieu Bogart, la mélancolie, mélancolie. On a beaucoup parlé depuis le début de cette émission d'idées justes, enfin en tout cas nous avons essayé, vous l'avez fait à la perfection. La civilisation européenne est née de l'idée d'une justice universelle. Et si je parle de ça, Paul le dit, c'est parce qu'il y a un autre livre qui paraît en poche, que vous avez publié, que vous avez écrit il y a déjà quelques années, mais qui sort en poche chez Verdier.
Et que j'ai entièrement réécrit,
que vous
en
avez
fait,
réécrit,
pour ça.
Réclamer justice. Alors c'est quand même drôlement intéressant, parce que la question de ce qui est juste, c'est une question absolument vertigineuse. Et ce qui est juste, c'est bien plus que la justice. On est bien au-delà de ça.
En tout cas, on sera toujours au-delà du droit lui-même.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Et cet écart entre...
Mais le droit n'est pas la justice,
voilà.
C'est ce que dit Derrida.
Exactement. Le droit n'est pas la justice, c'est le fil conducteur du livre. Pour bien marquer l'écart qu'il y a entre la loi qui existe ici et maintenant, et qui est appliquée au nom de la justice, et la justice qui reste un horizon à partir duquel une loi peut être élaborée et se prétendre être juste. Mmh. Alors, dans ce livre, je me suis intéressé à un paradoxe qui est que la réclamation de justice, qui est une chose que chacun de nous connaît très bien...
qui est même ce qui... Enfin, c'est pas ce qui... Enfin, oui, ça humanise les gens aussi, bah, de réclamer la justice.
Ah, mais
simplement, il faut pas...
C'est une dimension fondamentale.
Ça peut ouvrir la porte à la violence.
Voilà. Alors, le paradoxe est que certaines réclamations de justice peuvent provoquer des injustices. Mmh. Donc, au nom de la justice, c'est l'injustice qui va devenir le fruit de cette réclamation. Et là, c'est un paradoxe qui s'est incarné dans l'histoire, puisque à chaque fois qu'il y a eu une politisation des enjeux de justice, il y a un risque de violence et surtout il y a un risque de ne pas pouvoir aboutir en fait à ce que l'on vise, à savoir la justice. Une des grandes folies, si vous voulez, parce qu'il y a quand même une folie dans le réclamer justice, qui est à la fois extrêmement raisonnable, mais il peut être fou. C'est lorsque chacun pense qu'il peut être la personnification de la justice. Il peut prendre sur lui le fait de se rendre justice et de faire justice. Et cette incarnation, elle est extrêmement dangereuse, mais on a souvent tendance à se projeter dans un idéal, et la justice est un idéal, et donc on pense pouvoir l'incarner.
Et la justice, elle est aussi évidemment au cœur de la philosophie. Il nous reste une minute, Roger Paul-Droit, je suis absolument désolée. Moi, je voudrais bien savoir si Alice, à la fin de ce roman, Alice au pays des idées, trouve la phrase clé qu'elle pourrait se faire tatouer sur le bras, parce que tout à coup, ce serait comme un, je sais pas...
Premièrement, elle comprend au bout d'un moment qu'il n'y en a pas qu'une,
oui.
Qu'on ne peut pas avoir finalement une boussole fixe, mais que selon les circonstances, il en faut beaucoup. Et elle découvre in fine... que finalement, s'il y a une phrase à retenir, ce serait non pas une phrase de philosophe, mais cette phrase du Deutéronome, une phrase biblique qui est « Tu choisiras la vie ». Alors, qui a l'air d'un truisme presque, de quelque chose de trop simple, mais elle comprend à travers une rencontre ultime que je laisse au lecteur de découvrir, elle comprend finalement que c'est... À chaque fois, dans toute situation, il y a toujours ou bien quelque chose de destructeur, de possible, de mortifère, qui ne va pas, ou bien ce choix de construire, et c'est le choix de la vie.
Merci beaucoup, messieurs. Roger Paul-Droit, Alice au pays des idées, c'est chez Albin Michel, Paul Audy, Tenir tête chez Stock, et une nouvelle version de Réclamer justice qui est publiée chez Verdier en poche. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous.